Chine affronte le Sénégal. Au même moment, la Serbie rencontrera le Chili et puis Danemark, Roumanie et Suède, Croatie. Vous écoutez RFI, les 9h10 à Paris et vous retrouvez tout de suite Chantal.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. En 2020, le prix Femina étranger a récompensé deux titres d'une même auteure méconnue en France, Déborah Lévy. Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie, traduit en français par les éditions du Sous-sol, constituent les deux premiers volumes d'une autobiographie vivante, ainsi que la qualifie l'auteur britannique, bien connu dans son pays pour ses pièces de théâtre et ses romans. Dans Le coût de la vie, dont nous allons vous lire des extraits, elle revient sur son parcours après son divorce pour mieux illustrer la place des femmes dans le monde, et particulièrement des écrivaines. Sa recherche d'une autonomie financière, sa nécessité d'avoir un lieu pour écrire, sa vie quotidienne avec ses deux filles adolescentes, ses amitiés masculines, sa relation compliquée avec sa mère vieillissante et malade, nourrissent le récit et sa réflexion. Mon autobiographie vivante cherche à cerner les secousses de l'existence, qu'elles soient spectaculaires ou volatiles, dit-elle. Nous sommes loin ici d'une autobiographie classique. Chez Déborah Lévy, même les détails anodins ou triviaux font sens. Avec beaucoup d'autodérision, elle décrit aussi bien les plantes du jardin que sa passion pour son vélo, des rencontres improbables. Et l'on découvre en creux sa personnalité, pleine d'humanité, mais sans complaisance. Nous avons eu envie de partager son univers avec vous.
J'ai aménagé avec mes filles dans un appartement au 6e étage d'un grand immeuble délabré, bâti au sommet d'une colline, dans le nord de Londres. Un programme de réhabilitation était soi-disant prévu, mais rien n'a vraiment démarré. 3 ans après notre installation, le sol des couloirs était encore couvert d'une protection plastique grise. L'impossibilité de réparer et rénover un vieil immeuble semblait tristement pertinente en cette période de désintégration et de rupture. Le processus de restauration pour redonner vie à ce qui existait avant, ici un immeuble de style art déco qui tombait en ruine, n'était pas la bonne métaphore pour ce moment de ma vie. Je ne voulais pas restaurer le passé. Ce dont j'avais besoin, c'était une construction toute neuve. L'hiver a été glacial. Le chauffage central ne fonctionnait plus. Il n'y avait donc ni chauffage, ni eau chaude, et parfois, il n'y avait pas non plus d'eau froide. Je faisais tourner 3 radiateurs halogènes et stockait 12 grandes bouteilles d'eau minérale sous l'évier. Les coupures rendaient impossible de tirer la chasse d'eau. Un anonyme avait laissé ce mot sur la porte de l'ascenseur. « À l'aide, aidez-nous s'il vous plaît. Il fait un froid de loup dans les appartements, c'est insupportable. Est-ce que quelqu'un pourrait faire quelque chose ?» Monéné, qui venait d'entamer sa première année du fac, a plaisanté en disant que la vie d'étudiante, c'était le grand luxe à côté. Pendant les quelques semaines qui ont suivi son départ, je me réveillais au petit matin avec l'impression désagréable que quelque chose n'allait pas. Où était ma fille aînée ? Et puis ça me revenait, et je savais qu'ensemble, nous débutions une nouvelle vie. Il était vain de vouloir faire entrer une ancienne vie dans une nouvelle. L'ancien frigo était trop gros pour la nouvelle cuisine, le canapé trop grand pour le salon, les lits inadaptés aux chambres. La plupart de mes livres étaient dans des cartons, remisés au garage avec le reste des affaires de la maison. Plus problématique, je n'avais plus de bureau, alors que je n'avais jamais eu autant de travail de ma vie. J'écrivais partout où je pouvais et me concentrais pour offrir un foyer à mes filles. Je pourrais dire que je me suis davantage sacrifiée pendant ces années-là que durant mes années de famille nucléaire. Cependant, créer ce foyer, cet espace pour une mère et ses filles, a été une telle leçon d'humilité, une expérience si dure, profonde et intéressante, qu'à ma plus grande surprise, j'ai découvert que je travaillais très bien au milieu du chaos. J'avais les idées claires, j'étais lucide, l'installation en haut de la colline et la nouvelle situation avait libéré quelque chose jusque-là enfermé et étouffé. J'ai gagné en vigueur à 50 ans, à un âge où mes os étaient censés se fragiliser. J'avais de l'énergie parce que je n'avais pas d'autre choix que d'en avoir. Je devais écrire pour subvenir aux besoins de mes enfants et je devais gérer moi-même toutes les difficultés. La liberté n'est jamais libre. Quiconque s'est battu pour être libre sait ce qu'il en coûte. Quand je n'étais pas occupée à écrire, enseigner ou défaire les cartons, je consacrais toute mon énergie aux canalisations bouchées sous le lavabo de la salle de bain, ce qui impliquait de dévisser les différentes parties de l'installation, placer un seau sous les tuyaux et ne pas savoir quoi faire ensuite. J'avais emprunté une mystérieuse machine au cardiologue qui vivait en bas. Elle ressemblait à un aspirateur, sauf qu'elle possédait des câbles à insérer dans la tuyauterie. C'était un matin et je portais une veste de facteur à l'ancienne par-dessus ma chemise de nuit. Porter une veste de facteur bleue pour mes activités de plomberie n'était pas un choix délibéré. Il se trouvait simplement que la dite veste était accrochée dans la salle de bain et qu'elle me tenait chaud. Le contraste entre le coton de travail épais et le tissu fin de la chemise de nuit semblait bien résumer la situation. Mais je n'étais pas sûre que cela aboutisse à une conclusion très nette. Maintenant que je n'étais plus mariée à la société, je me transformais en autre chose ou en quelqu'un d'autre. Quelle serait cette chose et qui serait cette personne ? Comment décrire cet étrange sentiment de dissolution et de recomposition ? Les mots sont censés ouvrir l'esprit. Quand ils le ferment, on peut être assuré que quelqu'un a été réduit à néant. Pour m'amuser, j'étais toute seule, j'ai commencé à réfléchir à la chemise de nuit et à sa féminité en relation avec la plomberie. Celle que je portais était en soie noire et d'une sensualité que je supposais assez générique. Je pouvais la mettre pour me promener ou pour me déguiser. La féminité n'étant de toute façon qu'un déguisement. Je savais que la soie noire était un classique dans la catégorie des vêtements féminins. Pour ajouter à l'éclectisme, je portais aussi ce que mes filles surnommaient mes chaussons de chamane. Il s'agissait de bottines en daim noir, bordées d'une épaisse fausse fourrure au réalisme troublant et agrémentées d'une touffe qui faisait comme une petite queue et battait mes chevilles tandis que je parcourais l'appartement à la recherche de ce gadget appelé déboucheur. Les chaussons étaient un cadeau de mon meilleur ami, qui pensait que j'avais besoin d'isolation, ainsi qu'il me l'a dit. Terme qui avait peut-être à voir avec la plomberie et le fait de protéger quelque chose à nu et à vif. J'aimais ces chaussons en fourrure, leur chaleur réconfortante et leurs propriétés magiques. J'imagine que, dans mes fantasmes, j'avais moi-même dépecé ces animaux. Et la veste de facteur semblait offrir un contrepoint à la chemise de nuit en soie noire. J'étais l'homme, j'étais la femme. Peut-être étais-je le chaman. C'était une idée que j'avais envie d'approfondir. L'homme chaman portait souvent des vêtements de femme. Ceux des temples avaient le boulot le plus intéressant. J'avais entendu dire qu'en Corée, une femme chamane a le droit de porter des vêtements d'homme pour accueillir une présence masculine dans son corps. Ma veste de facteur faisait-elle l'affaire? Le chaman voyage dans d'autres mondes, tout comme je m'étais retrouvée à voyager à l'intérieur du réseau de plomberie sous le lavabo pour voir de quelle manière il était relié aux tuyaux bouchés de ma baignoire. Je me suis mise à avoir des fourmis dans les mains, peut-être pour me donner la force d'affronter les défis de bricolage qui m'attendaient. Ce qui est sorti des tuyaux après bien des excavations menées par la machine mystérieuse et le déboucheur était un nœud épais et gluant de cheveux. La plomberie n'était pas étrangère à l'archéologie. Les cheveux étaient un artefact humain, repêché des profondeurs. Le déboucheur était un bel objet fonctionnel. Quand la vidange a pu de nouveau se faire normalement, j'ai fait tournoyer la poignée de cheveux pour fêter ma victoire solitaire. J'ai commencé à penser que non seulement je serais capable de mettre au jour des vestiges romains, mais qu'en plus je pourrais m'occuper de leur plomberie. Je savais qu'il me faudrait ma propre machine mystérieuse. Quand je lui ai rendu ses outils, le cardiologue m'a invité à boire un verre de vin. Peut-être qu'un jour, je reprendrai le risque de tomber amoureuse. Mais je n'allais pas offrir mon cœur au cardiologue. Le même jour, j'ai créé un jardin dans la salle de bain. J'ai planté un grand cactus et des succulents que j'ai placés sur l'étagère à côté de la baignoire. Ils étaient couverts d'épines, dont certaines blanches et acérées. La vapeur produite par l'eau chaude semblait les mettre dans un état de frénésie érotique parce que les succulents ont poussé à une vitesse folle. Mon amie Gemma m'a dit « Il faut que tu aménages ta chambre pour y travailler. Fabrique-toi un bureau, fabrique-toi des étagères, sors les cartons du garage et récupère tes livres. Mets de la couleur dans ton environnement. » J'ai compris qu'elle m'incitait à peindre les murs d'une couleur qui ne soit pas le blanc. « Le jaune tirait bien », a-t-elle insisté. « Ça purifie les émotions et nous fait voir les choses en plus grand. » Cette phrase m'a rappelé la fois où j'avais repeint le plafond de notre ancienne chambre à coucher dans une couleur appelée « ciel à l'anglaise ». Le plafond avait pris la teinte d'un temps couvert et maussade. Même quand il faisait beau dehors, il pleuvait à l'intérieur, de jour comme de nuit. Pour cette nouvelle vie, je m'efforçais de vivre dans un environnement coloré. J'ai peint les murs de ma chambre en jaune, j'ai acheté de somptueux rideaux en soie orange dans une boutique solidaire. Au mur, j'ai accroché un bouclier africain orné de plumes de poulet teintes en rose. Il faisait plus de 50 cm de large et on aurait dit une grande fleur éclose. Le bouclier était assemblé de sorte à pouvoir se replier et s'ouvrir. Cloué au mur, il restait toujours ouvert à un moment de ma vie où j'étais émotionnellement fermée. J'avais besoin d'un bouclier pour me défendre contre la rage de mon ancienne vie. Je crois pouvoir dire que j'étais protégée par une fleur. Ces murs jaunes me rendaient folle. Les rideaux de soie orange me donnaient l'impression de me réveiller au milieu d'une poussée de coupe rose. J'ai décroché le bouclier et ai tout repeint en blanc, à l'exception d'un mur. J'ai remplacé le bouclier par le portrait sérigraphié d'Oscar Wilde.
En ces temps incertains, l'écriture était l'une des rares activités où je pouvais gérer l'angoisse de l'incertitude, celle de ne pas savoir ce qui allait arriver. Une idée m'est venue, s'est présentée à moi, peut-être née du chagrin, mais j'ignorais si elle survivrait à mon attention flottante, sans parler de mon attention plus soutenue. Déployer des idées à travers toutes les dimensions du temps est la grande aventure d'une vie passée à écrire. Sauf que je n'avais nulle part où écrire. Célia est venue à la rescousse. C'est une actrice et libraire de plus de 80 ans. Un soir de fin janvier dans sa cuisine, elle m'a chanté quelque chose en gallois. Je lui ai dit que je ne parlais pas cette langue. « C'est normal, je suis née au Pays de Galles et toi non. » Mais pendant que je chantais, je me disais que tu avais besoin d'un endroit où écrire. Elle a désigné le cabanon au fond de son jardin. Il était arrivé à son mari défunt, le grand poète Adrian Mitchell, d'y écrire au printemps et en été. Le cabanon avait été construit sous un pommier. En moins de 3 secondes, j'ai accepté de le lui louer. Célia savait que je devais subvenir aux besoins de toute une petite communauté, selon ses mots. Alors, nous avons passé un accord raisonnable autour d'un verre de rhum Havana Club qu'elle aimait particulièrement et buvait mélangé à du Coca-Cola. Chaque fois qu'elle prenait un Havana Club, elle portait un toast au miraculeux taux d'alphabétisation cubain. « Au fait, m'a-t-elle dit, la prochaine fois que la chaudière fera des siennes chez toi, viens plutôt prendre un bain chaud ici. Tout le monde devrait avoir un ange gardien comme Célia. » Ça n'était pas un cabanon de luxe. La tondeuse s'y serait sentie très à l'aise, mais il possédait néanmoins 4 fenêtres qui donnaient sur le jardin, un bureau à garniture en cuir qui avait appartenu à Adriane, ainsi que des étagères en formica fixées au mur du fond. J'allais aussi devoir vivre avec les cendres du Golden Retriever, connu de bien des lecteurs d'Adriane sous le nom de Daisy, chienne de la paix. Célia m'a prévenu. « Tu peux mettre tous les livres que tu veux sur ces étagères, mais je ne bouge pas Daisy de place. » En fait, elle avait adopté une chienne borgne trouvée dans un refuge. Ce petit chien de meute aboyait férocement chaque fois que j'entrais dans la maison. Célia, qui avait toujours été pacifiste, a commencé à se demander si je ne devrais pas m'armer d'un pistolet à eau pour la tenir à distance. Elle a acheté un lot de 3 pistolets en plastique au bazar du coin, mais j'ai préféré emprunter la porte du jardin sur le côté de la maison pour rejoindre le cabanon. Célia, comprenant que je pourrais passer écrire à toute heure du jour et de la nuit, m'a présenté à ses amis comme la femme tapie dans le jardin. Tant qu'elle serait là, personne n'aurait autorisation de m'interrompre, ni pour faire la conversation, météo, nouvelles, un gâteau tout juste servi, ni même pour transmettre un message urgent à la maîtresse de maison. Se voir respecté et valorisé de la sorte, comme s'il n'y avait rien de plus naturel au monde, était nouveau pour moi. Je l'ignorais encore, mais j'allais écrire 3 livres dans ce cabanon, dont celui que vous êtes en train de lire. C'est là que j'ai commencé à écrire à la première personne, à recourir à un « je » qui m'est proche, sans être moi pour autant. Le jour où j'ai emménagé dans le cabanon, il neigeait. Un souffle froid s'échappait du congélateur. Il y avait des toiles d'araignée sur le toit, de la poussière partout, des feuilles et de la boue par terre. Comment allais-je le transformer en espace vivable ou écrire en hiver? Écrire un roman exige de passer beaucoup d'heures assis sans bouger, comme lors d'un vol long courrier dont on connaîtrait plus ou moins le trajet, mais pas la destination finale. J'ai recouvert le fauteuil de mes 2 peaux de mouton. Petite ambiance, âge de pierre. J'ai installé mon ordinateur portable, vérifié où étaient les prises et apporté des rallonges. Pendant que la neige tombait sur le pommier, je me suis assise par terre pour démêler les câbles et ranger les cartons contenant mes livres et mes carnets. Je me suis demandé quoi faire de tout le papier qui accompagne un écrivain de ma génération. Il y avait des pièces de théâtre et des scénarios, des poèmes, des nouvelles, des livrets d'opéra, des bouts de romans écrits sur différents supports technologiques, machines à écrire mécaniques, machines à écrire électriques, premiers ordinateurs. Certains de mes carnets remontaient à 1985. 2 carnets racontaient ma rencontre avec l'homme que j'allais épouser, et ma certitude que nous étions faits l'un pour l'autre. À l'époque, il m'était impensable de vivre sans lui. Un après-midi, je suis partie du cabanon pour un rendez-vous au sujet d'une possible adaptation cinématographique de l'un de mes romans. J'aurais dû prendre le métro, mais mon vélo me paraissait particulièrement attrayant, se dressant grand et fort sous le pommier. À Mornington Crescent, j'ai été obligée de le retourner sur le trottoir afin de remettre la chaîne qui avait déraillé. Les mains couvertes de cambouis, j'ai couru jusqu'à un bar à nouilles où j'ai commandé un thé vert avant d'aller me laver dans les toilettes. Ni miroir, ni savon, ni eau chaude. Il ne fallait surtout pas que je sois en retard à ce rendez-vous. J'avais les sorties scolaires à payer, une facture de gaz et un ordinateur qui émettait d'inquiétants cliquetis quand il refusait de s'éteindre. Les producteurs étaient assis autour d'une table en chêne ciré dans une pièce sans fenêtre. Ils étaient intelligents, expérimentés, soignés, ultra compétents. On m'a proposé un verre d'eau que j'ai accepté avec reconnaissance. Au bout d'un moment, je me suis aperçue qu'à force de regarder des films en noir et blanc, je m'étais fait une idée très vieillotte de la façon dont un rendez-vous de ce genre était censé se dérouler. Je nous avais imaginé sirotant des négronis dans une boîte de nuit romaine, déterminant l'arc narratif du film pendant que des danseurs emplumés auraient batifolé à l'arrière-plan. On m'a posé une question importante. Qui, d'après moi, était le personnage principal de mon roman « Sous l'eau » ? Kitty Finch ou Joseph Nowogrodzki, alias Joe? J'ai répondu que si c'était le film de Joe, le scénariste serait obligé de lui écrire son passé. Né en Pologne, juif, traverse clandestinement une forêt en 1943 à l'âge de 5 ans, avant de rejoindre l'Est de Londres, mais qu'il serait plus intéressant de le présenter comme une recherche menée par Kitty Finch, qui croyait de toute façon être en contact télépathique avec lui. J'ai proposé d'écrire moi-même le scénario parce que je savais comment dérouler le passé de Joe du point de vue de Kitty. On peut raconter le passé autrement que par flashback, ai-je dit. Sauf que, quand on m'a demandé d'expliquer de quelle manière j'allais dévoiler ce passé, les mots m'ont manqué. En fait, la coexistence du passé et du présent était une technique que je commençais à développer dans ma fiction et je voyais comment ça pouvait marcher dans un film. Manifestement, ils ne me croyaient pas et m'ont demandé de leur envoyer par email, et pour la fin de la semaine, une liste des personnages principaux et secondaires. Après la réunion, je suis allée dans un café prendre un expresso bien mérité. Un grand miroir, serti dans un cadre doré de style baroque, était accroché au mur. Là, j'ai découvert que j'avais passé tout le rendez-vous avec trois feuilles d'arbres boueuses dans les cheveux. Elles avaient dû tomber quand je m'étais penchée sous le pommier pour sortir du cabanon. Ça faisait mauvais genre, mais ça aurait pu être pire. Toiles d'araignée prises à mes oreilles, petits insectes morts pendus à mes sourcils. Travailler dans un cabanon n'aidait pas à prendre soin de son apparence, même avec le vélo électrique. D'une certaine façon, c'était lui le personnage principal de ma vie. Il demandait tant d'efforts. Le personnage principal est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Mon vélo électrique était plus exigeant que mes enfants. Plus tôt, tandis que j'étais en route pour la réunion, deux hommes s'étaient arrêtés pour me poser des questions sur mon vélo. Le premier à un feu rouge à Camden Town, l'autre à côté du marchand de fruits devant la station de Good Street. J'avais roulé jusqu'à l'étal pour acheter une unique prune. Au début, j'ai cru que ces hommes aimables cherchaient juste une excuse pour me parler parce que j'étais incroyablement séduisante. Mais non, j'étais le personnage secondaire et le vélo, une star de la contre-culture. J'imagine que ces hommes étaient des personnages secondaires et que j'étais sortie de mon rôle, heureuse d'expliquer que le vélo poussait à près de 25 km/h avec son moteur de 200 watts. Pendant que je leur parlais, j'ai eu l'impression d'avoir rejoint une espèce de fraternité même si je me débattais avec la maternité parallèlement. J'étais une immatriarche dans une réalité patriarcale. La vie était dure et je n'avais pas de scénario. Peut-être étais-je en train d'en écrire un? Et qu'était-il arrivé à la prune? J'avais mordu dedans durant ma conversation avec l'homme de la station de Good Street. Elle était juteuse, ferme et dodue. Si j'en étais à l'écriture du scénario, cette prune serait un tournant dans le récit. L'homme aurait dit, au fait, est-ce que vous savez que vous avez des feuilles dans les cheveux?
mère a montré plus de courage dans sa vie que moi. Elle a fui une famille WASP, de la haute société qu'elle aimait, pour épouser un historien juif sans le sou. Elle a lutté à ses côtés pour la défense des droits de l'homme en Afrique du Sud. À la vingtaine, bien qu'intelligente, glamour et pleine d'esprit, elle a dû renoncer à faire des études. Personne n'a cru bon de lui dire qu'elle était très douée. Les femmes de sa classe étaient censées se marier dès qu'elles quittaient la maison ou une fois leur premier emploi trouvé. Ce devait être un boulot insignifiant qui ne débouchait pas sur une véritable carrière. Ma mère a appris la dactylo, la sténo et a porté des vêtements qui plaisaient à ses patrons. Elle aurait préféré être moins bonne secrétaire, mais c'est sa rapidité pour taper à la machine qui a nourri et habillé ses enfants quand mon père a été jeté en prison pour des raisons politiques. Elle était dure avec moi, et pas seulement pour que je sois une fille obéissante. Mais je comprends à présent que je refusais de la laisser être elle-même, pour le meilleur ou pour le pire. Que j'ai aménagé avec mes filles dans l'appartement sur la colline, ma mère est tombée gravement malade. Je passais la nuit à attendre un appel de l'hôpital. Chaque heure égrenée à ma pendule par un chant d'oiseaux différent. Le rossignol chantait juste avant minuit, comme s'il était perché sur les branches de l'arbre ruisselant d'eau de pluie sur le parking. Elle me répétait toujours qu'à sa mort, elle voulait qu'on dépose son corps au sommet d'une montagne pour qu'il soit mangé par les oiseaux. Au cours des quelques semaines qu'a duré son agonie, elle ne pouvait plus manger ni boire. Mais j'ai découvert qu'elle pouvait avaler une marque particulière de glace à l'eau qui se déclinait en trois parfums. Le citron vert était sa préférée, venait ensuite la fraise, et enfin l'orange, la redoutée. L'hiver n'était pas le meilleur moment pour en trouver dans les magasins, mais j'en avais dégoté dans le coffre réfrigéré de la boutique où j'achetais le journal tenu par trois frères turcs. Ils vendaient souvent des champignons dans un cajot posé sur l'une des portes coulissantes du congélateur, lui-même trônant au milieu du magasin. On trouvait aussi des billets de loterie, des produits d'entretien à prix cassé, des canettes de boissons gazeuses, du cirage, des piles et des gâteaux. Le congélateur lui-même contenait mes glaces à l'eau, seule source de réconfort pour ma mère pendant son agonie. À l'époque, j'étais à ce point dévastée par le naufrage de mon mariage et le cancer diagnostiqué à ma mère l'année suivante, que j'étais incapable d'expliquer aux frères pourquoi j'achetais ces glaces tous les jours en plein mois de février. J'entrais, le visage sombre, les yeux toujours humides, le vélo garé dehors, sans dire un mot. Je repoussais les champignons, les billets de loterie, les produits d'entretien à prix cassé, les canettes de boissons gazeuses, le cirage, les piles et les gâteaux d'un côté du congélateur. Puis, je faisais coulisser la porte et cherchais les glaces à l'eau. Triomphante quand je trouvais du citron vert, contente quand je trouvais de la fraise et résignée quand je trouvais de l'orange. J'en achetais toujours deux, puis je descendais la colline à vélo jusqu'à l'hôpital où ma mère se mourait. Je m'asseyais à côté de son lit et approchais la glace de ses lèvres, heureuse de l'entendre pousser des « oh », des « ah » de plaisir. Sa pépite était insatiable. Le frigo, dans la chambre, n'avait pas de freezer, de sorte que la seconde glace fondait toujours. Mais mon rituel était d'en acheter deux. Quand j'y repense, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas acheté toutes les glaces du marchand pour les mettre dans mon propre congélo. Mais durant cette période difficile, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et puis un jour, le grand ordre des glaces a été bouleversé. Comme d'habitude, je suis descendue chez le marchand de journaux, j'ai repoussé d'un large geste tout ce qui encombrait le congélateur et, sous le regard attentif des frères turcs, j'ai fait coulisser la porte. Il est apparu qu'il existait un quatrième parfum. Les frères n'avaient plus ni citron vert, ni fraise, ni même orange, aussi redoutée soit-elle. J'ai levé le regard et l'ai braqué sur les aimables yeux marrons du frère cadet. « Pourquoi est-ce que vous n'avez que des glaces au goût chewing-gum ?» Je me suis mise à crier. « Qui voulait fabriquer une glace au chewing-gum sans même parler de la vendre ? Quel intérêt ? Et est-ce qu'il pouvait refaire en urgence le stock des autres parfums, surtout celui au citron vert ?» Le frère n'a pas hurlé en retour. Il est resté muet, dans son silence médusé, pendant que j'achetais rageusement deux glaces goût chewing-gum. Sur le trajet de l'hôpital, je me disais que c'était une catastrophe, et de fait c'en était une, puisque ces glaces étaient plus ou moins les seules choses qui maintenaient ma mère en vie jour après jour. Je me suis arrêtée dans quelques autres magasins sur le chemin de l'hôpital, mais aucun ne vendait la marque que ma mère pouvait avaler facilement. Je me suis malgré tout assise à côté du lit de ma mère, squelettique, j'ai défait l'emballage de la glace au chewing-gum et je l'ai approchée de ses lèvres. Elle l'a léchée, a grimacé, réessayé, puis a secoué la tête. Quand je lui ai raconté que je m'étais mise à hurler comme une dingue dans le magasin, de petits sons sont sortis de sa bouche, sa poitrine se soulevant et retombant. Je savais qu'elle riait, et c'est un de mes souvenirs les plus chers de nos derniers jours ensemble. Ce soir-là, alors que je lisais un livre près de son lit, j'ai jeté un coup d'œil plein de remords à la glace au chewing-gum qui fondait en formant une flaque rose dans le haricot. Je ne lisais pas vraiment, je ne faisais que survoler la page. Mais c'était réconfortant d'être près d'elle. Quand le médecin est passé dans la chambre pour la dernière visite, ma mère a levé sa main fine et de la toute petite voix qu'elle avait à ce moment-là, elle lui a ordonné sur un ton impérieux, « Allumez la lumière, ma fille lit dans le noir. » Après son enterrement, en mars, je me suis dit qu'il serait peut-être bien d'aller expliquer mon comportement étrange aux frères turcs. Quand je leur ai raconté les dernières semaines de ma mère, ils ont été si bouleversés qu'à leur tour, ils sont restés sans voix. Ils ont secoué la tête, soupiré et grogné. Au bout d'un moment, le frère aîné a déclaré « Si seulement vous nous l'aviez dit !» Le frère des vestes à la mode ajoutées. Si vous nous aviez parlé, on serait passé chez le grossiste et on vous en aurait acheté une tonne. » Et le troisième frère, celui qui avait une voix plus aiguë que ses frères aînés, s'est frappé le front de la main. « Je savais que c'était une histoire de ce genre. Est-ce que je ne vous ai pas dit qu'elle les achetait pour quelqu'un de malade ?» Ils ont tous lancé un regard noir au congélateur, comme s'il était personnellement responsable du drame de la glace au chewing-gum qui avait donné mauvais goût au dernier jour de ma mère. Cette fois, j'ai ri. Et ils se sont aussi sentis autorisés à rire. Après la terreur imposée par la mort, c'était un gros soulagement de reconnaître qu'elle était aussi toujours absurde. Nous nous tenions sur les cartons aplatis, posés au sol pour protéger le lino, de la boue apportée par les chaussures des clients. Ils étaient détrempés, tachés, glissaient sous nos pieds, et nous avons ri. Je me sentais bien mieux après avoir expliqué la situation aux frères turcs. Et d'une certaine façon, j'aurais aimé avoir mieux expliqué les choses au père de mes enfants. Quand je suis retournée chez le marchand de journaux un dimanche pour acheter les champignons que j'avais passé des semaines à repousser avec colère, le plus jeune frère venait juste de rentrer de ses vacances en Turquie. Il m'a tendu un objet emballé dans du papier journal et m'a dit que c'était un cadeau. Il s'agissait d'une minuscule tasse en porcelaine blanche tenue dans un porte-tasse en filigrane argenté et fermée par un couvercle en argent ouvragé. Le frère m'a dit qu'il se souvenait que j'achetais du café turc chez eux et que je lui avais dit le boire dans un verre. Mais le verre, c'est pour le thé. Alors, voilà une tasse pour votre café turc. J'ai compris que c'était un cadeau de condoléances.
Nous espérons que ces quelques passages lus par Monique et Marie-Paul vous donneront envie de prolonger la lecture de Déborah Lévy pour découvrir sa voix singulière et libre et sa manière d'être à l'écoute de toutes les surprises de la vie. L'accompagnement musical est extrait de Bye Bye Blackbird de Miles Davis. Nous remercions Claude Michel pour le montage. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission